la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM. Et « Je lire » cette semaine, je viens juste de le terminer, un petit livre sur la musique. Vous connaissez peut-être cette jolie collection qui s'intitule « Discogonie » aux éditions Densité et qui propose à un auteur d'écrire sur un disque en particulier, souvent un disque qui a fait date dans l'histoire de la musique amplifiée, de la musique rock. Je tiens entre les mains le Nirvana in Utero de Palem Candilier. Palem Candilier est musicien, chanteur, également chroniqueur sur le net et à la radio. Et il a donc passé au crible ce disque de Nirvana, ultime disque studio de Nirvana, avant le suicide de son chanteur Kurt Cobain, une année après sa sortie. Le disque a été publié en 1993, Cobain s'est foutu en l'air en 1994. Et en 2013, le disque a connu pour ses 20 ans une somptueuse réédition dans une version peut-être plus proche des origines et de ce que souhaitait le groupe avec le producteur de ce disque à l'époque, c'est-à-dire le fameux maintenant Steve Albini, qui était déjà assez célèbre dans le milieu rock, mais n'avait pas à ce point enregistré un certain nombre de disques devenus classiques. C'est cette histoire qui est racontée dans ce In Utero Nirvana de Palem Candilier. Dans cette même collection, dans cette même maison d'édition, on a déjà plusieurs volumes qui ont été consacrés à des disques devenus des références, comme Loveless de My Bloody Valentine ou Le Hockey Computer de Radiohead, ou encore Pornography de Cure par exemple, et puis d'autres titres sont à venir très prochainement. C'est donc pour 10,50€ une petite somme qui vous permet, en une petite centaine de pages, de revenir sur un disque, un classique, de repiocher aussi dans cette discothèque, de réécouter des disques peut-être d'une autre manière, puisque passer l'histoire du disque et de son enregistrement, eh bien, on a un exercice de face A, face B, façon vinyle, qui reprend chaque morceau et permet de décrypter le pourquoi du comment, les intentions, des détails à la fois techniques et sonores, mais aussi des études de texte autour des paroles des chansons. Et tout cela permet de vraiment rentrer dans la cuisine, dans la possibilité, l'intériorité parfois des compositeurs et compositrices qui sont détaillés dans cette collection. Et c'est ce que fait très bien Palem Candilier dans ce In Utero. Il revient sur l'histoire chaotique de l'enregistrement. L'enregistrement en lui-même n'est pas chaotique, mais tout ce qui entoure la possibilité de ce disque est assez chaotique, puisque Cobain et son groupe sont en prise avec une pression assez phénoménale à la suite du succès de Nevermind. Et notamment, la maison de disques les attend largement au tournant. Ils ont beau faire des choix un peu radicaux, comme celui par exemple d'aller chercher le très intègre Steve Albini, eh bien, ils sont un peu, on va dire, le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, puisque au moment où le disque doit sortir, il est finalement remixé pour certains morceaux au dernier moment pour donner un aspect un peu plus vendable, comprenez, commercial, à ce disque. Et c'est toute l'ambiguïté qui va, jusqu'à la fin de sa vie, travailler Kurt Cobain. Il en fait des pages et des pages dans son journal, qui a été publié notamment en français chez 10-18, sur lequel j'ai pas pu remettre la main, je l'ai prêté à je ne sais qui, mais c'est dommage, c'est vraiment un très très bon journal. Ceci pour dire que Nirvana, ça n'a jamais été complètement, pour moi, un groupe fondamental. Je suis même un peu passé à côté à sa sortie, ayant écouté pourtant Nevermind et puis donc In Utero. Mais finalement, c'était pas un groupe qui m'avait à ce point marqué, même si son impact dans l'industrie musicale et dans la musique tout simplement a été très conséquent, et notamment pour faire un peu bifurquer les oreilles bouchées des maisons de disques et pour aller chercher un peu plus de nouveautés au début des années 90 en tout cas. Ceci dit, il ne faut pas nier le plaisir de réécouter finalement, quelques 20 ans après, ces disques et de voir ce qu'il y a d'intéressant dedans, et parfois ce qu'il y a d'un peu grotesque aussi. Et dans ce In Utero, eh bien, Palem Candilier revient justement sur toutes les ambiguïtés qui sont principalement celles de Kurt Cobain, mais aussi des deux autres protagonistes de Nirvana, Dave Grohl et Chris Novoselic. Et chacun y va de quelques paroles, alors parfois piochées dans le journal de Kurt Cobain, parfois des propos rapportés dans des interviews. C'est un beau travail aussi de somme de documents en un tout petit livre qui tient très bien et dans la poche et dans une bibliothèque. Et ça donne envie de réécouter, notamment cette version Deluxe qui est sortie donc en 2013 et qui reprend In Utero dans les différents mix et les différentes versions qui ont existé. Alors peut-être c'est affaire un peu de collectionneurs et d'amateurs forcenés, mais c'est intéressant de voir ce qui a été écarté au profit d'une commercialisation peut-être un peu plus grande, ou ce qui a été gardé finalement comme idée. Et Steve Albini s'est remis au mix en 2013 avec les deux survivants de Nirvana pour essayer de s'approcher au plus près de ce qu'ils avaient cherché pendant les deux semaines d'enregistrement de cet album devenu un classique du groupe avec un certain nombre de tubes. Mais parmi les morceaux que, on va dire, je préfère dans cet album, il y a celui-ci, Francis Farmer Will Have a Revenge on Seattle. Pourquoi ? Parce que tout simplement à l'intérieur de ce morceau, par son titre déjà un peu mystérieux si vous ne connaissez pas le parcours de Francis Farmer, et puis cette idée de revanche sur une localité, un endroit qui vous aurait rejeté, eh bien il y a évidemment toute l'autobiographie de Cobain, mais il y a aussi ces prises de position, on va dire politiques et sociales, très fortes et très évidentes dès le début. Il est en but contre le machisme dominant de la société américaine, c'est un féministe très très engagé. Il est aussi évidemment contre toute forme de discrimination, homophobie, racisme, etc. Et il enfonce le clou dès qu'il le peut, que ce soit dans ses chansons, dans son journal, dans ses prises de parole, dans les interviews. Et ce morceau-là, Francis Farmer Will Have a Revenge on Seattle, est vraiment emblématique de ce travail, finalement un peu social, politique, mais aussi onirique de Kurt Cobain dans ses paroles. Voici ce que Palem Candelier en dit dans son décryptage du morceau par morceau de ce In Utero de Nirvana. Francis Farmer naît le 19 septembre 1913 à Seattle, 80 ans presque jour pour jour avant la sortie de In Utero. Fille d'avocat, elle se distingue au théâtre et dans l'écriture dès sa jeunesse. Elle affiche une indépendance d'esprit rare dans son milieu. On la soupçonne de sympathie communiste et son essai athée « Dieu meurt » la met dans le collimateur de l'opinion. Comédienne de théâtre et des studios Paramount Pictures, au milieu des années 1930, elle est néanmoins très critique vis-à-vis du star system hollywoodien. Sa carrière brillante marque un arrêt brutal en 1942 alors qu'elle se fait interpeller pour conduite en état d'ivresse. Réfractaire à l'ordre et au juge, elle est abusivement déclarée malade mentale et diagnostiquée schizophrène paranoïaque l'année suivante. On la place de force dans un sanatorium du comté de Los Angeles. Elle traverse une série de traitements tristement courants à l'époque, insuline, électrochoc, avant d'être internée pendant 5 ans dans un asile psychiatrique, à la suite d'autres infractions mineures. Elle y aurait été partiellement lobotomisée et aurait subi des viols collectifs. Cette figure de liberté féminine opprimée à l'extrême a tout pour séduire Cobain. Nul doute qu'il s'identifie à Frances Farmer et à son destin tragique. Lui aussi est devenu une célébrité dont l'intégrité et le franc-parler ont déchaîné la haine. Lui aussi se sent inadapté à la médiatisation de sa vie. Les paroles évoquent encore les faux témoins. Et l'incertitude de son évolution médicale et mentale présage pour lui un dénouement sombre à son histoire. Tout ça commence à se ressembler, admet-il dans le premier couplet. Le calvaire particulièrement glauque de Frances correspond à la noirceur d'esprit du chanteur et symbolise toute la violence masculine sur les personnalités libres et sur les femmes en général. Les conspirateurs sont toujours vivants et bien portants dans leur confortable maison sécurisée. Dieu est une femme, note-t-il dans son journal au sujet de cette chanson hommage. Il reprend aussi à son compte l'image de la sorcière évoquée ici par le supplice de la chaise, censée autrefois révéler la nature diabolique de ces femmes. J'espère que tu es encore là pour voir si elle flotte ou se noie. Il a déjà abordé cette figure hautement féministe et sa tristement célèbre torture dans Serve the Servant. Si elle flotte, c'est qu'elle n'est pas une sorcière comme nous le pensions. Preuve non seulement de sa solidarité mais aussi d'une empathie complète pour le deuxième sexe. Il était attaché à un idéal féministe et au respect de tous, un credo anti-macho, rappelle Danny Goldberg. Aussi, Kurt rêve-t-il de donner à l'actrice une occasion de prendre sa revanche sur ce monde. Frances Farmer Will Have a Revenge on Seattle. Il affirme dans certaines interviews que l'enfer qu'elle a traversé était une conspiration des gens puissants de Seattle et prévient dans sa chanson qu'elle reviendra comme un incendie pour immoler tous les menteurs et ne laisser qu'une couche de cendres derrière elle. Les autres thématiques d'In Utero émergent ici. Maladie, quête d'un repos, mélancolie rassurante. Ça me manque, le confort d'être triste. dans un pot-pourri un peu hors sujet qui suit plutôt les méandres de l'esprit de Cobain. De façon plus notable qu'ailleurs, ce dernier joue sur la sonorité des mots et leur donne un rythme. It's so relieving to know that you're leaving. It's so relaxing to hear that you're asking. Le rythme est de toute façon central dans la construction du morceau, avec son alternance régulière d'accords étouffés et d'éclatements électriques. La mélodie vocale du refrain est une des plus réussies de l'album, soigneusement harmonisée et entêtante à la Penny Royalty. La voix de Kurt, rugueuse et sans faiblesse, même dans le calme, semble déterminée du début à la fin pour accomplir cette vengeance. Quant au pont instrumental, dynamique et presque groové, il s'approche davantage du rock indé que du grunge pur et lourd. C'est encore une chanson qui est arrivée quasiment terminée entre les mains des deux autres membres, selon Christ. L'histoire de Frances Farmer aurait pu se conclure par une mort sordide, mais la jeune femme retrouve la liberté dans les années 50. Elle foule même à nouveau les plateaux de cinéma et de télévision, notamment pour animer un programme dans les années 1960 intitulé Frances Farmer Presents. Les circonstances de son décès en 1970 peuvent laisser pensif sur son lien à Kurt, un cancer de l'œsophage. Lui-même aime rapporter la version populaire et apparemment romancée de son calvaire. Elle s'est fait battre et violer pendant des années, elle ne portait pas de vêtements la plupart du temps. D'autres sources parlent de consommation forcée de ses propres excréments, d'enchaînement, de nourriture pourrie et de bains d'eau glacée réguliers, racontés dans la biographie écrite en 1978 par William Arnold, Shadowland. Arnold se rappelle avoir été harcelé par le chanteur de Nirvana, fan du livre depuis le lycée, et a regretté de ne pas avoir eu le temps de discuter avec lui. Reconnue à moitié reconstituée par l'auteur lui-même, la version des faits de Charles Holland a été plus tard démentie par des enquêtes qui ont révélé entre autres qu'aucune lobotomie n'avait été pratiquée. Le jour de son mariage avec Kurt en février 1992, Courtney Love portait une robe ayant appartenu à Frances Farmer. Le prénom de cette dernière entoure beaucoup la vie du garçon d'Aberdeen. La guitariste chanteuse d'un de ses groupes préférés, The Vaseline's, s'appelle Frances McKee et il a prénommé sa propre fille Frances en hommage à cette figure de son panthéon personnel. C'était donc un extrait du livre de Palem Candilier, Nirvana in Utero, tout juste publié par les éditions Densité dans leur collection Discogonie pour 10,50€, une petite centaine de pages pour faire le tour de ce disque publié en 1993, dont nous écoutons ici la version mixée telle que à l'origine pensée par Steve Albini en 2013 pour les 20 ans du disque. Nous écoutons donc le morceau Frances Farmer Will Have a Revenge on Seattle.
Yes, I'm relieving, now that you're leaving, soon as you can be. Yes, I'm relaxing. picture